Vous êtes sur les ondes de Choc FM avec Kitry Hervouet. Je suis en studio avec Michel Huneau pour son livre « La longue nuit de Mégantic ». C'est un documentaire en photographie. Monsieur Huneau, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de votre livre, moi j'aimerais que vous me parliez de la catastrophe ferroviaire du lac Mégantic. La resituer pour nos auditeurs. Elle a eu lieu le 6 juillet 2013. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ?
Oui, bien sûr. Donc, le 6 juillet, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, comme beaucoup de gens vont se rappeler, il y a eu un convoi de pétrole, en fait, un train pétrolier qui contenait du gaz de schiste issu de Dakota du Nord. Alors, en pleine nuit, sans chauffeur, le train a commencé à se mobiliser, à descendre une pente par lui-même très, très accentuée et prendre la caisse comme ça. Au bout de la pente, il y avait le centre-ville de lac Mégantic et une courbe. Alors, le train a déraillé, a explosé et a donc tué sur le coup 47 personnes dans une petite population de 6000 habitants et effacé le centre-ville. De la communauté. Alors, une catastrophe humaine, ferroviaire, environnementale, industrielle. Moi, je dis toujours, c'est pas tellement un accident, c'est une accumulation de négligence. Hein. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Lac Mégantic doit servir d'exemple. Et on doit apprendre des leçons de tout ça.
Et comment trouvez-vous vos projets? Est-ce que ce fut pour vous quelque chose de normal d'aller sur les lieux pour photographier l'événement?
Moi, je fais de la photographie type documentaire depuis 8, environ 8 ans. Avant, j'ai travaillé en développement international, en travail humanitaire, en recherche. Et j'ai toujours travaillé sur les thèmes post-traumatiques, post-conflit, après les génocides, après les tsunamis. Et puis, quand je passe à la photographie, j'ai continué à travailler sur les mêmes thèmes. Alors, je travaille beaucoup à l'étranger, mais ça donne que ce week-end-là, j'étais à Montréal. Et quand je me suis levé le matin, j'ai vu les nouvelles, j'essaie d'absorber le plus vite possible qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai comme déjà eu, comme beaucoup de gens, je pense que c'est énorme. Quand la nouvelle se développe, c'est toujours difficile à capter. Donc, je pense que j'avais assez de données, donc je me suis dirigé sur les lieux immédiatement, parce que c'est quand même à 3-4 heures de Montréal. Je suis arrivé 20 heures après. Je suis resté une semaine la première visite, puis je suis retourné, en fait, 14 fois la première année, 70 jours sur le terrain. Donc, c'est un engagement, je pense, qui se fait dans des projets comme ça de façon graduelle. On se rend compte de l'impact, de l'importance, de l'universalité du propos aussi d'une tragédie comme Mégantic. Non seulement au niveau du traumatisme collectif, mais au niveau des enjeux environnementaux qui sont aussi présents un peu partout. Donc, c'est ça qui fait qu'on développe un attachement au lieu, on développe un projet personnel et puis ça prend forme comme ça.
Pourquoi avoir décidé, il y a 8 ans, de passer à la photographie? Vous avez dit que vous travailliez plutôt dans l'humanitaire, au niveau post-traumatique. Pourquoi cette passion pour la photographie?
Mon ancien métier, c'est un métier que j'aimais beaucoup. Par contre, depuis, j'ai toujours eu d'autres passions. J'ai toujours voulu faire du documentaire sous forme plus cinématographique, sous forme photographique. Puis c'était éventuellement, je me suis dit, bon, j'attends la bonne opportunité, je vais le faire. J'ai rencontré pendant mes études de maîtrise un mentor qui s'appelait Gilles Pérez, de l'agence Magnum, un Français. Puis c'était en 2008. Et puis, c'était en 2004. En Californie, pendant mes études de maîtrise. Et puis, à partir de ce moment-là, je savais qu'éventuellement, je voudrais faire la photographie de type documentaire sur des enjeux comme ça à temps plein. Et puis, j'avais déjà commencé à documenter mes travaux d'études en photographie. Et ce que j'aimais du langage photographique, il y a quelque chose c'est un peu cliché de le dire, mais c'est plus universel. Ça peut-être expliquer des émotions plus complexes qu'un travail écrit. Ça traverse les langages, les frontières. Et puis, je l'avais vu avec mon travail de maîtrise qui était sur la réconciliation et la mémoire collective après le génocide de Guatemala, qui était très, très complexe à écrire et à expliquer, en anglais surtout. Et puis, quand j'ai fait un essai photo sur le même sujet, ben ça a circulé énormément, et ça a touché des politiciens même aux États-Unis, alors je dis, attends, ça c'est intéressant quand même, puis un jour je vais le faire à temps plein, puis un des derniers contrats que j'ai fait en développement international, c'était en Afghanistan, à Kandahar. À partir du moment que j'ai fait le contrat, je me suis dit, bon, je fais c'était une année de terrain très intense, et je me suis dit, pour me récompenser, après je vais faire la photographie.
Les sujets que vous trouvez, parce que là, vous avez photographié le lac Mégantic. On disait également hors antenne que vous avez été au Japon pour le tsunami. C'est des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est des sujets plutôt de catastrophe. Vous avez des choses qui vous tiennent plus à cœur que d'autres?
Ben, je pense que un des thèmes universaux du livre, c'est vraiment comment c'est une communauté. Hein, moi, je me pose, ça construit par une grande question, en fait. Comment est-ce qu'on vit une catastrophe aussi complexe que ça en tant qu'individu et de communauté? Puis comment ça évolue dans le temps? Parce que je trouve que c'est des questions auxquelles on n'a pas encore des réponses très, très claires. Donc, ça part d'une question de base personnelle que moi, je vais aller explorer. Et plus j'avance dans le travail, plus je trouve un peu de réponses, des éléments de réponse. Et puis, c'est comme ça fait maintenant à peu près 15 ans que je travaille sur des thèmes comme ça, soit en tant qu'humanitaire ou qu'artiste, photographe. Mais c'est, il y a un dialogue intéressant qui s'installe entre les projets aussi. Les enjeux que je vois à Mégantic, il y a des échos très, très forts dans ce que je vois sur la côte du Japon. Les témoignages se croisent. Les gens de Lac Mégantic connaissent mon travail sur le Japon et ils donnent des commentaires très intéressants et vice-versa aussi. Au moment où le Lac Mégantic était exposé au Japon, j'avais mon travail sur le Japon qui était exposé au Canada, donc ça en dit long aussi. Donc, c'est, je pense que ça se bâtit un peu comme ça, un peu de façon graduelle, un corpus personnel bâti sur différents projets, un peu comme des piliers. Puis, après quelques années, on se rend compte qu'on a vraiment, pas une vision, mais un ensemble de travaux cohérents. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on a vraiment quelque chose à apporter, peut-être de plus spécifique.
Et combien de projets vous avez le temps de faire par an? Parce que vous disiez que pour le lac Mégantic, vous y avez été 14 fois en une seule année. Donc, c'est beaucoup. Ça vous prend beaucoup de temps pour un projet. Vous avez le temps d'en faire plusieurs par an, un ou deux, ou voire deux ou trois?
Non, je pense que ça, c'est un projet majeur. Il y a toujours des projets plus petits aussi qui s'installent. Donc, il faut gérer le temps, il faut gérer l'énergie. L'énergie qu'on peut mettre dans un projet, moi, c'est l'engagement avec les gens. Parce que pour un projet aussi personnel qu'on rentre dans la vie des gens, il faut être honnête et il faut être capable d'être complètement présent avec eux. Donc, je pense qu'on peut avoir à la fois, moi, je peux avoir un projet majeur en production par année comme ça, peut-être un en préparation et peut-être un en post-production. C'est comme ce qu'on appelle un flow de production. Mais en même temps, il y a d'autres projets plus courts qui peuvent s'installer. J'ai couvert la crise des migrants en Europe l'an dernier pendant 2 mois. J'étais par hasard, comme j'ai dit, le 13 novembre pendant les attaques à Paris. Donc, il y a des projets plus courts ou moyens, court terme, ça, qui s'installent aussi, qui s'imbriquent dans tout le corpus. Et puis, il faut apprendre si on veut en vivre ou en survivre, à pouvoir trouver un rythme dans tout ça et donner une bonne vie aux projets qui va bien les supporter, c'est une espèce de trouver la symbiose entre les projets et la carrière.
Alors, vous travaillez avec des magazines qui publient vos documentaires de photos comme Le Devoir, L'Actualité, le Globe and Mail et le Toronto Star. Est-ce que ce sont ces magazines-là qui vous demandent de faire ce reportage photo ou c'est toujours vous qui présentez vos reportages photos et qui leur disent « moi, je peux vous les vendre
Le contexte médiatique a beaucoup évolué, ça change encore à chaque année, donc faut un peu s'adapter. Mais en ce moment, je pense depuis quelques années, dans mon cas, c'est vraiment moi qui dirige mes propres projets, qu'ensuite je présente aux médias que je connais bien sous différents formats, comme la longue nuit Mégantic, je peux le présenter comme je l'ai présenté à quelques mois à la suite pour avoir déjà une première impression avec Vice Magazine, par exemple. Ça m'a permis aussi de bâtir un lien de travail avec le Globe and Mail. Ils n'ont jamais publié ce travail-là, mais par contre, comme ils ont vu mon engagement avec la communauté, mon accès, j'ai eu beaucoup de commandes d'eux reliées à Lac Mégantic sur d'autres sujets, sur des portraits, sur la pollution, la décontamination de la rivière, mais qui m'a permis, et ça, ils savaient, à continuer mon travail aussi par la suite, en parallèle, sur place. Donc, c'est souvent un mélange de tout. En ce moment, je pense que c'est important, en tant que photographe, si on veut travailler avec des médias, leur montrer non seulement montrer l'intérêt envers un lieu ou une cause, et ensuite, y aller, montrer qu'on est là, qu'on a accès et qu'on se soucie vraiment du lieu. Et ça, je pense, c'est très apprécié par les différents clients ou les différentes publications.
Et est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier, de tous ces documentaires photos que vous faites?
Tout le temps, moi, j'arrive à en survivre. Donc, j'arrive à avoir un bon roulement. Des fois, c'est déficitaire. Et puis, éventuellement, il y a des cachets qui rentrent, des cachets d'exposition, des cachets de publication. J'ai eu la chance. Le corpus a gagné un prix assez prestigieux aux États-Unis l'an dernier de 10 000 $ américains qui m'a permis de renflouer les coffres. Et donc, on arrive à en vivre, on arrive à en survivre, mais c'est toujours le salaire, la richesse de pouvoir le faire. Moi, j'ai pas envie de prendre de vacances. Moi, ce que je fais dans la vie avec ce travail-là, avec la richesse des rencontres, ça pourrait pas s'acheter avec un salaire normal. Donc ça, j'en suis très conscient parce que j'ai eu une vie plus normale avant. Je fais beaucoup moins de, je suis beaucoup moins stable économiquement, mais la valeur de ce que je fais, de l'expérience, est très agréable.
Vous pouvez vous procurer le livre La longue nuit de Mégantic à la galerie Stephen Bulger qui se trouve à 1626 Queen Street West. Ce livre a été dédicacé par Michel Huneau. Donc allez-y, courez à cette galerie pour acheter ce livre et vous pouvez également le trouver en ligne. Merci beaucoup Michel Huneau d'être venu dans les studios de Choc FM. Vous le savez très bien, il y a eu des attentats à Québec. Un attentat à Québec plutôt. Michel Huneau, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Je sais que vous êtes beaucoup touché par cet événement. Est-ce que vous pensez que vous voulez aller le couvrir, cet événement, en tant que photographe?
Je suis très touché, je suis très bouleversé en tant que Québécois, en tant que personne qui a beaucoup de contacts avec les différentes communautés culturelles ici, ailleurs. J'ai toujours présenté le Québec, le Canada comme un oasis très fertile pour une communauté, donc je suis un peu bouleversé. Sauf depuis que je vois les nouvelles, on réfléchit à un peu à ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je pourrais contribuer, mais j'ai pas encore la réponse, mais c'est sûr que j'y pense en venant, puis je pense que penser à la catastrophe en tant que contribution journalistique, ça mène un peu à passer de l'émotion, donc je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose, mais je sais pas de quelle nature encore.
Merci beaucoup Michel Huneau. Comme je vous le disais, La longue nuit de Mégantic est disponible à la galerie Stephen Bulger, 1026 Queen Street West. Merci beaucoup. Vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitri Hervouet.